les musulmans islamistes sont entre eux et puis les chrétiens sont entre eux. Et c'est effectivement ce qui est en vue avec ce référendum d'autodétermination. Ça répond maintenant à une demande des gens qui considèrent que le Nord a eu une politique d'esclavagiste, raciste, de politique de la terre brûlée, et que depuis l'accord de paix qui a été signé en 2005, ils n'ont rien fait pour arranger les choses. Ils ont essayé de torpiller l'accord parce qu'ils se considèrent qu'ils ont trop cédé aux Américains au lieu d'essayer de réconcilier avec les sudistes. S'il y a une sécession du Sud n'est pas du tout prêt et ça fera une colonie ou une néocolonie du Nord. Ce qui gêne pas du tout, d'ailleurs, le gouvernement nordiste qui s'est divisé pour régner à merveille. Il le fait actuellement, d'ailleurs, au Sud. Que les sudistes votent, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils aient un gouvernement, que ce soit un gouvernement fantoche, et les gens du Nord exploiteront le pétrole et les terres cultivables.
Le riche territoire d'Abyei devrait rester attaché au Nord, ou plutôt intégrer le Sud, selon vous, lors de ce référendum 2011?
Depuis le règlement, le protocole d'accord sur Abyei, le gouvernement a fait un transfert de population nomade dans ce territoire pour changer la balance démographique, et les sudistes sont aujourd'hui minoritaires dans ce territoire. Et puis le gouvernement a développé un affrontement entre les sudistes et les nordistes qui n'existait pas du tout dans ce territoire, qui est une sorte de Soudan en miniature, mais où finalement il y avait une coexistence pacifique, une complémentarité entre les nomades sudistes d'Inca et les nomades nordistes, les éleveurs de vaches. Donc il y a eu une commission qui a été chargée de délimiter une frontière, ce qui est complètement, évidemment, artificielle dans des pays de nomades, puisque les gens montent et descendent selon la saison, des pluies ou saison sèche, et ils ont l'habitude de vivre ensemble. Mais on a réussi à faire un découpage comme ça à partir des vieilles cartes anglaises. Le gouvernement soudanais, depuis 5 ans, bientôt 6, a tout fait pour changer cette balance démographique, donc il est sûr de gagner, pour habiller.
Ce qui veut dire que le président Omar el-Béchir contrôle totalement la situation.
Le mouvement rebelle a été divisé par la corruption dès que la paix est venue et que les Occidentaux ont amené de l'argent pour reconstruire le pays. Comme il n'y avait aucun canal d'utilisation de cet argent, eh bien, tout le monde s'est rempli les poches. Et le gouvernement central a des milices qu'il paye pour attaquer d'autres peuples, etc. Donc il sème la zizanie. Le mouvement rebelle n'existe plus, il n'a pas de structure. Il ne s'est jamais préparé à la paix. Ce qui fait que toute cette histoire de règlement de paix soudanais est biaisée dès le départ. Les sudistes, non, il n'y a plus de SPLM que sur le papier, parce qu'il en faut un face au gouvernement central. Les Américains et la communauté internationale est complètement absente. Ils font mine de s'apercevoir maintenant que depuis 2005, ils ont perdu 5 ans sans rien faire pour laisser le président du mouvement rebelle, Garang, se faire tuer, pour faire que le vice-président soudanais, Ali Osman, soit marginalisé. Ils ont été complètement absents à partir du moment où le papier a été signé en janvier 2005, et ils se réveillent maintenant, un an avant le référendum. C'est trop tard. Rien n'a été fait pour rassurer les sudistes en leur disant « Restez dans l'ensemble soudanais et tout ira bien ». Il n'y a pas d'effort de développement, il n'y a absolument aucune structure d'accueil pour les déplacés qui sont partis au nord, qui ne sont pas revenus au sud. Donc la communauté internationale, elle a montré au Darfour ce qu'elle était capable de faire, c'est-à-dire rien, sinon aggraver le problème.